Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce que tu
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, merci de suivre Radio Capi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. La Banque centrale du Congo a décidé mardi 17 décembre dernier de geler les avoirs, comptes et tout mouvement des transactions du Libanais Salé Assi, patron de la société Pain Victoire, Mino Congo et Transgazelle sur ordre du gouvernement. Salé Assi est sanctionné par les départements du Trésor américain pour blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Selon le ministre de la Communication et Média, Julino Makelele, le gouvernement congolais a pris ces mesures pour préserver les bonnes relations avec les départements d'État américains. Plusieurs observateurs redoutent que ces mesures ne puissent impacter négativement la vie de plusieurs Congolais. Qu'en pensez-vous? 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel. Pour intervenir en direct dans ce magazine, Nico Kalambay et Jean-Claude Ntiala concourent à la production de ce programme que vous présente Pierrot et la Mégie sous la supervision de Martin Sebujangwe, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Ces trois sociétés qui emploient des Congolais qui travaillent sur les sols congolais, il y a la société Pain Victoire, Mino Congo et Transgazelle. Le propriétaire de ces sociétés a été sanctionné par les trésors américains. Bien sûr, les départements du trésor américain et la banque centrale a emboîté les pas pour pouvoir geler ses avoirs et demander qu'un autre responsable soit désigné. Beaucoup de Congolais redoutent que les mesures de gel des avoirs ne puissent impacter négativement sur leur vie, que ce soit sur la productivité de ces entreprises, y compris sur l'emploi. Qu'en pensez-vous? Nous dégageons ensemble le piste des solutions. Vous êtes nombreux à commenter les sujets sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Et en direct, nous avons invité pour vous Dédé Mopassa, qui est député national. Avec lui, on a toujours analysé les questions qui touchent à l'économie, surtout à ces questions qui touchent à l'économie non seulement de la RDC, mais d'une manière globale. Dédé Mopassa, merci d'être avec nous en direct. Bonjour. N'était pas ça, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour à Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs. Mmh.
Les Congolais, en fait, on peut dire que sur les sols congolais, on n'est pas habitué à des mesures de gel des avoirs des sociétés et dans le passé récent, on a ces dossiers qui touchent le patron de Pain Victoire, Mino Congo et Transgazelle. Et quand on regarde les commentaires des uns et des autres, c'est plus la peur, parce que les gens ont peur de perdre peut-être l'emploi, des services que ces sociétés rendent. Mais d'une manière d'abord générale, c'est quoi exactement cette question des gels des avoirs d'une société?
Oui, voilà, parce que sur le plan international, on vous a dit que le monde, c'est un petit village maintenant, et ça concorde avec beaucoup de traités que nous signons, au départ de conventions que nous avons au niveau des Nations Unies, où nous sommes un pays membre à part entière. Ce qui fait que dans des accords que nous signons et des traités, il y a des menaces, depuis qu'il y a eu des menaces de, comment on appelle, des terroristes, c'est un événement maintenant qui tourne et qui touche le monde entier. Et on a décidé de participer à lutter contre les terroristes dans le monde. Donc le Congo n'est pas une terre qui doit recevoir des terroristes. Vous savez qu'on a les mêmes problèmes avec des islamistes qui sont annoncés ou détectés dans ce qui nous arrive au niveau de Beni, Goma et Butembo. Donc, nous sommes signataires de ces traités et les États-Unis, dans leur contrôle, dans leur service, ont détecté qu'il y a des sociétés congolaises dont vous citez le nom tout à l'heure, et ils sont impliqués dans ce genre de mafia. Donc, je dis, au niveau de la justice, au niveau des États-Unis, ils ont encore la présomption d'attaquer cela. Mais ils envoient des messages dans tous les pays du monde parce que ils doivent retracer comment ils agissent ils multiplient leur argent. Il s'avère que l'argent qu'ils prennent dans les mafias là-bas, ils viennent ici en mettant ça dans les entreprises, dans une économie formelle. C'est une façon de blanchir l'argent. Et le Congo, maintenant, a été avisé par les États-Unis. Et je pense que les mesures conservatoires que le gouvernement a prises, c'est quand même très, très important pour sauver les emplois qui en restent en danger. Mmh. Donc, mais c'est vrai, le danger est là. Mmh.
Mais quand il s'agit d'une manière globale, comment la RDC, est-ce que la RDC a la capacité aujourd'hui d'intercepter ces genres d'informations en amont? Savoir que non, voilà, telle société qui opère sur mon sol, son argent provient d'où, et peut avoir des ramifications avec des financements illicites, par exemple. Avons-nous aujourd'hui les mécanismes de pouvoir détecter ces genres d'informations plutôt que ça vienne, par exemple, des États-Unis qui ont assez d'outils pour se rendre compte de cela?
Oui, là, vous avez raison. C'est-à-dire, nous avons ces outils. Mais c'est vrai qu'il faut des réformes, des lois qui soient à la portée, les règlements qui soient à la portée de nos sociétaires, c'est-à-dire nos services. Quand au guichet unique, par exemple, avant d'offrir ou d'agréer une personne ou groupe de personnes, une société d'une façon ou d'une autre, comme établi en RDC, il faut d'abord examiner dans des services si ces personnes-là ils ont une bonne réputation en termes international de leur mouvement des capitaux. Mais c'est pas encore le cas. C'est vrai que les services existent. On a tout un service de la lutte contre le blanchissement de l'argent. Vous le savez, c'est attaché au niveau du ministère d'affaires fonctions, ministère de fonction publique. Au niveau du parquet général, il y a aussi un service qui s'occupe du blanchissement de l'argent. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore de paramètres, on n'a pas encore, le détecteur convenable pour dénicher toutes ces entreprises qui évoluent dans ces domaines-là.
Mmh. Alors, mais on sait, oui.
Les États-Unis sont plus outillés, c'est sûr que les informations ne viennent pas directement des États-Unis. C'est possible aussi que le Congo a participé. On ne va pas nous les dire au grand jour, mais au moins, ils ont décidé et ils ont détecté. Maintenant, c'est question qui présente les moyens de défense pour justifier qu'ils peuvent être cousins ou ils peuvent être d'origine libanaise, mais peut-être l'argent, ils ont trouvé d'une manière ou d'une autre. Parce que vous savez, l'argent dans le monde, il faut la traçabilité. Même nous qui construisons de gros bâtiments ici, nous qui évoluons, nous devons faire la traçabilité de notre argent. D'où c'est venu, comment vous l'avez eu et comment vous l'utilisez. Et même les banques commerciales, à chaque fois, même quand tu vends ta maison, tu vas verser l'argent ou te payes un montant qui frise 200, 300, 400 000 dollars seulement là, et la banque t'interroge, ça vient d'où? Tu dois présenter tous les papiers. Mm-hmm. Donc, ce sont des conventions et les banquiers savent. Les banquiers savent cela. Mmh.
Mais ça y est, on se rappellera d'ailleurs. D'ailleurs, en 2015, on va se rappeler qu'une des sociétés touchées avait été sur la liste de présentée par l'ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et blanchiment des capitaux, le professeur Luzolo Bambi. Il y avait une des sociétés citées qui était considérée comme utilisant la fraude fiscale pour opérer en RTC. Il y avait des dossiers qui étaient transmis à la justice. C'est ça un problème. Mais alors, mais si on revient maintenant sur les faits, on sait qu'on a beaucoup de problèmes aujourd'hui pour que la justice soit capable de mener des enquêtes et qu'on puisse assainir cet espace parce qu'on a plusieurs fois appelé au climat des affaires. Mais quelles peuvent être alors les conséquences par rapport à l'emploi à long terme, tout comme aussi aux services que ce souhaite rendre quand même aux Congolais?
Oui, je veux d'abord peut-être un lapsus. Quand vous dites fraude fiscale, non, nous ne sommes pas encore, on ne les poursuit pas pour fraude fiscale, on les poursuit pour blanchissement de l'argent. C'est-à-dire c'est l'argent qu'ils ont eu ça d'une manière malhonnête, en appuyant les actions du terrorisme. Vous savez comment la pratique terroriste se passe. On sabote les biens, on tue les gens, on sabote des économies d'une manière ou d'une autre. Donc, mais maintenant ici, les conséquences, pour revenir un peu à ta question, les conséquences sont énormes parce que ils faut employer. Quand on vient blanchir l'argent, on peut payer les salaires que vous ne pouvez pas imaginer. Ils sont dans des investissements et des dépenses que vous ne pouvez pas justifier. Mais maintenant là, quand on doit mettre fin à l'emploi au travail des uns des autres, ce sont des Congolais. Et même le taxe qu'ils payaient, l'impôt, ça va, parce que dans la ville de Kinshasa, je pense qu'ils sont tributaires de 10 ou 20 ou 30% de finances publiques de la ville de Kinshasa, en termes de l'emploi et en termes de paiement d'impôts. Donc,
mais est-ce que cela peut placer le gouvernement congolais un peu dans une position de, on peut dire, délicatesse? Ça veut dire, vous avez d'un côté les emplois des compatriotes, vous estimez quand même que ces sociétés, d'un moment, d'une manière ou d'une autre, payent, comme vous l'avez dit, l'impôt, les emplois des Congolais, mais d'un côté, il faut sanctionner. Est-ce que cela peut mettre un peu le gouvernement dans une position délicate du jugement?
C'est très délicat. Pourquoi? Parce que vous regardez l'emploi d'un côté, mais vous êtes engagé parce que vous avez signé des traités que vous devez respecter pour l'honneur et classer votre pays dans la classe des pays civilisés. Sinon, on va vous incriminer comme pays terroriste qui cache des terroristes et les investisseurs, des investissements corrects ne viendront plus en RDC parce qu'on va dire voilà pays indexé qui collabore avec des terroristes. Donc, il faut faire face à cela. Mais maintenant, je pense, la manière dont ils ont demandé de gérer déjà, de mettre un administrateur, pouvoir, et la Banque centrale a réagi pour montrer la position de l'État. Mm-hmm. Mais maintenant, l'approche qui doit venir après va partir du management des autorités pour voir comment ils peuvent contourner et sauver les emplois en RDC. Mm-hmm. Car obtenir, privatiser, retenir pour l'État tous leurs biens et au lieu de bloquer, ils peuvent continuer avec une autre gestion.
Mmh. On revient à vous le temps d'écouter Jérémy qui est à Lubumbashi, Sylvain qui est à Bounia. Jérémy, merci de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Monsieur Thierry, bonjour également à notre invité.
On vous écoute.
Le sujet, vous le voyez, c'est un sujet qui fait le débat, mais parce que la banque a frappé dessus, ce n'est pas mal, parce que vous savez, en cette matière de financement en cette matière financière, je pense que la traçabilité doit être mise en vedette lorsque il y a dissimulation d'argent. Alors on doit être là pour suivre, collaborer bien évidemment pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre les choses sur l'orbite. Ce n'est pas, nous savons bien que nous compatissons tant, parce que vous savez, lorsque on frappe dessus, je pense qu'il y a quelques-uns de nos compatriotes qui seront sommés à passer des moments sombres. Tout cela, c'est dans l'intérêt de notre pays, parce que lorsque il y a collaboration avec d'un pays avec le nôtre, il n'est pas mal qu'on puisse, n'est-ce pas, frapper dessus lorsque il y a blanchissement d'argent. Cela n'est pas une mauvaise chose. Il revient alors à nos compatriotes de comprendre que, en cette matière, on doit, n'est-ce pas, frapper dessus, parce qu'on doit, n'est-ce pas, suivre de plus près pour connaître les fonds, comment est-ce que les fonds ont été acquis. Parce qu'on peut avoir les fonds donc acquis de manière illicite. Et alors, il revient à l'État congolais d'être sérieux et de frapper, parce que ça vaut aussi c'est-à-dire de la sérieuxité d'un pays ou de la rigueur d'un pays. Lorsque un pays n'est pas rigoureux en cette matière, donc il est passible c'est-à-dire on le prend pour un pays moins sérieux et ça peut compromettre à beaucoup de choses.
Mmh, merci. Et vous avez insisté beaucoup sur le fait qu'il faut de la rigueur, mais la question de la traçabilité, c'est pour cela, vous avez vu, on a créé différentes structures pour améliorer le climat des affaires. C'est là qu'on soit sûr qu'il y a des capitaux qui sont investis d'une manière équitable. On peut bien tracer ces fonds, que les impôts sont payés et que ces fonds ne contribuent pas à des activités de subversion. Merci beaucoup. Sylvain, vous êtes à Bounia. Bienvenue dans Parole aux auditeurs. Bonjour.
Bonjour.
Oui, on vous écoute.
Bien, je crois que l'invité a essayé un peu de fixer la base du débat. Ici, il s'agit du débat autour des origines intellectuelles.
Alors, on a des petits soucis vraiment avec Bounia, je crois actuellement. Sylvain, si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu tout en intervenant, parce que on vous saisit à peine, si vous pouvez intervenir tout en vous déplaçant, disons oui.
Là, vous me suivez?
Oui, on peut continuer.
D'accord, je dis que cette question relève des origines délicieuses du financement d'une entreprise.
Non, là, c'est vraiment... C'est compliqué vraiment, on ne parvient pas vraiment à vous suivre. On va voir, votre intervention est intéressante, mais là on a un problème de qualité des lignes téléphoniques. On pourra voir avec la réalisation si possible vous appeler sur une autre ligne. Peut-être que ça peut améliorer la communication, mais en attendant, Louis vient de nous rejoindre, il est à Kikwit. Bonjour Louis et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, journaliste, bonjour.
On vous écoute Louis.
Oui, je disais que c'est bien de préserver des relations comme le gouvernement congolais vient de nous le dire. Mais maintenant, la question se pose sur la véracité de ce propos du gouvernement américain. Est-ce que le gouvernement congolais s'est rassuré de la véracité des propos du gouvernement américain dès lors que ces entreprises ne datent pas d'aujourd'hui en RDC. Et en cas de fermeture, que deviendraient des centaines de Congolais qui sont employés dans ces sociétés? Non, je pense que c'est la règle de la raison du plus fort. Elle a toujours été meilleure. Vous vous rappelez qu'il y a aussi de nos concitoyens qui sont sanctionné par ce fameux département d'État américain, sans vraiment motif apparent. Donc, je dis que cela ne veut pas dire que nous acclamons le terrorisme. Non, nous n'acclamons pas le terrorisme. Nous avons aussi un problème ici, dans ce pays, à l'est de la RDC. Nous avons besoin de gens qui peuvent venir aussi et nous aider à éluciter ce qui se passe à Béni. Je pense que c'est ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, Louis. Mais rappelons aussi qu'il y a quelques semaines, le département d'État américain a aussi gelé les avoirs et puni, on peut dire, sanctionné les responsables des quelques responsables de groupes terroristes ADEF parce qu'il est qualifié ainsi. Mais vous voulez savoir si le gouvernement congolais a-t-il vérifié ces informations, ces allégations du département des trésors américains pour s'assurer exactement que ces sociétés financent les terrorismes parce que ils opèrent en RDC depuis très très longtemps, ce n'est pas aujourd'hui, mais est-ce qu'on a la possibilité de pouvoir vérifier pour qu'on ne tombe pas dans ces jugements des plus forts contre les plus faibles? Merci beaucoup Omar, vous êtes ici à Kinshasa, merci de nous avoir rejoint, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les gens de Radio Kati.
On vous écoute.
Allô?
Allô, oui, vous écoutez, oui.
Et merci beaucoup Pierre, ce sujet est vraiment intéressant. Moi je salue l'initiative de la Banque Centrale, car c'est dans les cas, n'est-ce pas, de l'assainissement du climat des affaires. Il faudra rappeler rapidement Pierre que le blanchiment des capitaux et les financements torpillent le monde. Et actuellement notre pays, la RDC, a ratifié plusieurs conventions. D'ailleurs je rappelle qu'en 2004, au Congo au niveau interne, une loi a été votée portant blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Mais je voudrais que l'invité fasse la différence entre le blanchiment des capitaux, qui est, n'est-ce pas, une manière à finir l'origine illicite de l'argent et le financement du terrorisme. Il ne faut pas que lorsque le département américain parle, que tout le monde puisse acclamer directement. Donc, cette loi a déjà été existée, cette loi est au nom de cette loi que la Banque Centrale a agi. Des services même y afférents ont été créés, comme l'a dit votre invité. Mais on critique aujourd'hui, on regrette le fait que ces services brillent par la torpille et ne travaillent pas. Le CNRS, les services de blanchiment des capitaux. Il faudrait donc attendre que le département américain s'élève pour qu'on puisse sanctionner. Et plus que ce service a été créé en 2004, à mon avis, c'est la plus grande décision qui a été prise. C'est donc une interpellation sur ce qui doit être fait en amont au lieu d'attendre. Parce que moi, je me pose une bonne question. Lorsque la Banque Centrale du Congo agit, c'est en coopération diplomatique avec les États-Unis ou c'est simplement un complexe? Parce que si on lit l'histoire des Libanais aujourd'hui, il y a un problème sérieux. Il y a un problème de dominance qui s'impose entre les grandes puissances. Si vous allez en Martinique, vous allez vous rendre compte que les Libanais ont acheté presque toute l'île de Martinique. Ils ont voulu imposer. Ils veulent aussi les faire en cours. Venez seulement à Gombe, à la place centrale, au centre-ville. Vous allez vous rendre compte que ces gens sont en train de construire. Donc il y a comme un combat entre les grandes puissances qui doivent être étudiées. Il ne faut pas que lorsque le département américain dise qu'il y a blanchiment, qu'on puisse directement applaudir. Au-delà des savoirs, on doit mener les réelles enquêtes, car on risque de pénaliser l'économie de tout un pays à cause des guerres des puissances économiques au niveau du monde. Mais quelles sont les conséquences, j'ai fini par là, de cette mesure que nous saluons, qui du reste est légale? Premièrement, sur le plan politique, ça annonce un signal fort. Aujourd'hui même au Congo, on se rend compte que l'économie réelle du Congo a pour plateforme les étrangers. Nous avons une économie extravertie, ce qui fait qu'au niveau interne, il n'y a plus d'initiatives qui sont soutenues. Sauf qu'il nécessite l'alimentation, la boisson, tout est fait là. Donc, sur le plan politique, c'est un signal fort que le gouvernement lance pour dire nous voulons vraiment que les choses marchent avec une nouvelle alternance, ça marche. Mais sur le plan économique, Pierrot, il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se bluffe. Il y a des réels dégâts, il y a des graves conséquences. Je l'ai dit, l'économie d'un État se base sur deux béquilles, la béquille budgétaire et la béquille des investissements. Or, il est démontré aujourd'hui que notre économie est extravertie, elle est basée sur des capitaux étrangers. Lorsque vous gelez les avoirs, sur le plan économique, il y a des pertes d'emploi, il y a des pertes des familles qui vivent. Sur le plan social, qui sait aujourd'hui, qui peut ignorer que le pain aujourd'hui au Congo est alimenté par les pains Victoire, même s'il y a d'autres compagnies? Donc, il y a un problème sérieux. Avant de geler, il faudra vraiment mener des études. Et là aussi, interpeller l'État qui doit savoir que la production doit d'abord être locale. Il faudra soutenir les États locaux. Parce qu'aujourd'hui, tout est entre les mains des étrangers. Et lorsqu'il y a une mesure qui est prise, sur le plan économique, ça paralyse. Donc moi, je ne suis pas pour qu'on puisse dire il faut laisser parce que l'économie... Non, il faut sanctionner. L'État des droits a comme épine dorsale, comme épicentre, la sanction des actes infracteurs. Mais lorsqu'on sanctionne, on doit tenir compte. Ce qui fait que pour finir, je voudrais interpeller l'État congolais pour dire la production est avant tout l'affaire de l'État. L'économie réelle d'un État se base d'abord sur le plan local avant de financer les investissements étrangers. Donc on doit soutenir cet acte, mais les conséquences économiques sont réelles. Il faudra un réel travail au niveau économique sur l'emploi des gens qui auront perdu, sur le pain qui est produit, sur les différentes fiscalisations que ces entreprises apportent au niveau des pays. Et je crois que les études doivent être faites avant d'aller au fond de ce dossier. Voilà ma petite contribution. Je vous remercie, cher Pierrot.
Merci beaucoup, Omar. Vous l'avez dit, d'ailleurs, c'est un signal d'un côté qui montre quand même qu'en RDC, il y a l'assainissement des climats des affaires. Mais aussi, ça lance un message pour dire que toute la peur que les gens ont, c'est parce que l'économie de la RDC est gérée par des capitaux étrangers, c'est déjà un problème. Et si une société est sanctionnée, cela a des conséquences néfastes. Mais d'un côté aussi, vous vous interrogez, est-ce que dans cette guerre de l'économie mondiale, la RDC a-t-elle assez de manœuvres pour vérifier, pour se rendre compte, et pour qu'elle ne puisse pas en train de faire le jeu du département d'État, comme je lis certains commentaires sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est l'ensemble de ces inquiétudes. Mais au moins, vous saluez la mesure parce qu'elle est légale, mais ça entre aussi en ligne de compte de l'amélioration du climat des affaires. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Vous pouvez également commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Et nous allons accorder la parole à notre invité des moments à l'autre pour commenter les points de vue des compatriotes. Vous pouvez nous rejoindre encore au 081-890-4969.
Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h juste, et sur internet, radiokapi.net.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Dédé Mopassa, député national, notre invité. Vous avez suivi comment certains compatriotes sont exprimés autour de cette question. Quelle est votre réaction d'une manière assez ramassée par rapport à leurs préoccupations?
Oui, mais d'abord, quand vous dites Dédé Mopassa, député national, il faut toujours ajouter, pardon, élu du Diofa.
Oui, oui, merci. Oui.
Voilà, c'est tout ce qu'ils disent est vrai. Les conséquences, comme je l'avais annoncé, est grave. Et la position de l'État congolais, c'est une très bonne position parce que dans des concerts des nations, il faut qu'on montre de quoi nous sommes capables. Parce que le Congo a pris l'option d'investir avec des partenaires. Partenaires étatiques ou des privés. C'est ça l'option que le Congo a pris. Et au même moment, le Congo est en train de se battre par ses dirigeants de créer des riches Congolais, la classe moyenne, des millionnaires congolais, pour pallier à tout ce qui nous arrive, comme l'a dit l'intervenant de tout à l'heure, faire de notre économie qui est extravertie, qui est ce soit quand même l'économie à base d'investissements internes ou de richesses ou de riches internes, avec des lois qu'on a mises en place, comme la loi sur la sous-traitance, qui tient compte d'excéder les données des marchés aux Congolais et que les Congolais deviennent riches et on les forme ainsi. Alors, pour moi, la voie de sortie, parce que c'est là qui est important, peut-être on va arriver à la conclusion, mais je dis, ces entreprises qui sont accusées, qui sont interpellées, ils doivent s'appuyer à l'État congolais, au fisc congolais, pour démontrer leur innocence, si cela est vrai qu'ils sont innocents. Parce qu'on ne va pas soutenir ce qui serait vrai. Si c'est vrai qu'ils financent des terroristes, si c'est vrai qu'ils viennent blanchir leur argent, on ne peut pas collaborer avec. Au même moment que les États-Unis ont frappé, nous aussi, par nos services, on peut déjà commencer à faire un travail à l'interne, localement ici. Qu'on ouvre des dossiers pour démontrer que tout est mis en place pour démontrer que c'est vrai. Et on vient de découvrir avec un retard qu'ils l'ont fait ou qu'ils ne le font pas pour bloquer cette économie. Je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, le chef a bien fait. Quand je dis chef, je vais parler du président de la République, de nommer un administrateur extérieur pour venir en appui, pour protéger les emplois. Et c'est comme ça qu'on pourra évoluer. On peut le rendre comme structure, bloquer leur financement extérieur, mais l'outil du travail, la boulangerie, les travailleurs et tout le reste, l'État peut venir en appui avec FPI ou quoi pour redémarrer la même configuration de l'entreprise, mais avec une nouvelle gestion. Donc ça ne sera pas avec eux. Donc là au moins, le financement qui va continuer avec l'entreprise, c'est le financement local et c'est l'État congolais qui va mettre les moyens pour continuer avec. Parce que les avoirs sont bloqués. Donc on pourra toujours voir, c'est eux maintenant qui doivent livrer des origines, où ils ont trouvé l'argent, comment ils le trouvent et comment ils sont entrés au Congo, que ce soit 10 ans ou 20 ans. Ils peuvent le démontrer.
Mais quand on parle de l'interne, c'est pourquoi j'avais parlé de fraude fiscale. C'était dans un autre dossier, on se rappellera. C'était, je crois, en 2015 avec le conseiller spécial, ancien conseiller spécial du chef de l'État, le professeur Luzolo Bambi, où il y avait un dossier où une des sociétés qui s'occupe des minoteries était accusée de fraude fiscale, qu'elle avait des opacités dans les opérations où elle devait au trésor public. Mais ça, c'était déjà un problème à l'interne, parce qu'il y a eu même des interpellations après, des personnes ont été relâchées et les dossiers n'ont pas pu évoluer au niveau de la justice en 2015. Est-ce que ça, ce n'est pas déjà une matière qui pouvait aussi fragiliser, n'est-ce pas, le côté congolais dans ces dossiers, dès lors qu'une des sociétés est déjà accusée par la RDC elle-même de fraude fiscale?
Oui, la fraude fiscale est interne, c'est pas la fiscalité internationale. La fraude fiscale, pour quelqu'un qui est établi normalement, la fraude est de plusieurs dimensions. C'est-à-dire, tu peux faire une erreur comptable, ou on t'attrape parce que délibérément, tu veux bénéficier derrière le fisc. La loi a prévu comment remédier à cette situation. Et les arrestations ne se font pas directement. Même si vous avez fraudé, on vous arrête pas directement. Si vous repayez avec pénalité, parce que la loi dit, on vous attrape, vous remettez d'abord l'argent de l'État, et ensuite on vous pénalise. Quand on vous l'a fait, et c'est fini, les sanctions qui devaient venir sur le plan pénal tombent au même moment que tu as rendu à l'État ce qu'il devait avoir. Donc il n'y a plus de poursuite. Mais s'il y a poursuite, c'est quand vous vous engagez de payer, et que vous n'arrivez pas à payer, on continue à recouvrer. Et ça peut amener des sanctions jusqu'à à vous arrêter, parce que là, c'est encore ouvert. C'est comme ça qu'on conseille toujours les gens. Ça peut arriver qu'on vous attrape, parce que tout Congolais doit dénoncer la fraude là où il est. Ça, c'est constitutionnel. Et à ce moment-là, quand on vous attrape, vous payez le double, comme on dit, le principe, qui paye mal, paye double. Et c'est ainsi avec les impôts. Donc, pour ce cadre-là, c'était interne, c'est sûr, je pense qu'ils ont payé, et c'est comme ça qu'on les a pas arrêtés, j'estime. Je présume. Mais si tel n'était pas le cas, alors maintenant c'est des services, je pense, je vous dis sincèrement, on ne sait pas le dire déjà ici, c'est possible que ça sorte nos services qui ont travaillé avec le Conseil d'État, comment dire, avec
le département du Trésor, oui.
Le département du Trésor, il peut avoir aussi que c'est parti du Congo. C'est possible. C'est possible aussi. Parce que nos services, nous minimisons des fois nos services à l'interne parce que nous sommes avec eux, nous voyons comment ils sont traités. Mais du côté qualité du travail, si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez bien l'apprécier.
Et d'ailleurs, quand on voit beaucoup de commentaires, le département d'État américain a d'ailleurs annoncé poursuivre et soutenir le gouvernement congolais et ses efforts dans la lutte contre la corruption malgré que ces sanctions touchent ces sociétés qui opèrent en RDC. Mais alors au-delà de ça, quel doit être l'engagement maintenant de la RDC exactement dans cette question des transparences, de l'amélioration des climats des affaires pour que ça soit quand même un signal donné sur le plan international, vous l'avez dit, parce qu'on a besoin quand même qu'il y ait des investisseurs qui arrivent au pays.
Voilà, pour le MIN, il y a une structure qui présente tout ce qu'il y a comme impôt que les gens doivent déclarer et présenter à l'opinion publique. Il y a une structure qui suit ça, et cette structure est internationale. Mais maintenant, sur le plan des RDC, au niveau de la NAPI, par exemple, parce que c'est la NAPI qui s'occupe du climat des affaires et de faciliter aux investisseurs, on va demander qu'une plateforme puisse soit mise en place avec un guichet qui publie qui est venu au Congo. De telle manière, si quelqu'un a des informations sur le plan international, il peut toujours signaler. Parce que on a eu ici, je ne vais pas revenir sur ça, il y a une entreprise qui a été chassée en France, en Côte d'Ivoire, qui vendait des déchets. Vous êtes au courant, il y a quelques années.
Oui.
Et cette entreprise a changé de nom pour venir s'installer au Congo. Vous voyez? Et on a dénoncé à partir de Côte d'Ivoire, et ici, on a retiré la licence. Voilà, donc c'est comme ça que à ce niveau-là, il faut une structure. Là, c'est pas une loi pour qu'on ramène ça au niveau du Parlement nécessairement. Non, il y a déjà du pouvoir qui est donné. Les lois sont là pour lutter contre le blanchiment et le soutien aux terroristes et tout ça. C'est à eux, aux ministres, à cette structure de prendre le règlement ou le circulaire ou le mesure d'encadrement, si je peux le dire. Donc, il faut dans cette structure qu'on puisse publier. Et on publie dans un site qui touche le monde entier, et on cherche des correspondants dans le monde, des structures comme ça, parce que ça existe un peu partout, soit attachés à la justice, soit attachés au climat des affaires, ainsi de suite, pour publier les noms des investisseurs qui évoluent avec leur... D'ailleurs, on les appelle comment? Dans des banques, là, si par exemple, vous êtes dans la politique, et qu'on vous voit votre avoir à la banque en train d'augmenter, sans savoir le source, on vous interpelle. Déjà, on vous interpelle. Mais ça, c'est au niveau de la banque, ça s'arrête là. Mais il faut maintenant qu'on transfère les dossiers dans ces comités-là, qu'on les publie. Comme ça, si quelqu'un sait qu'il y a l'argent qui a été détourné pour tel dossier, il y a tel député qui est derrière, ou il y a tel... Ça, c'est le mécanisme de la lutte d'une manière interne, mais en international. C'est que nous exposons notre pays en international, et on peut déjà signaler, surtout que nous avons pris l'option d'acquérir des capitaux qui peuvent venir de partout. Donc ça sera cette façon de filtrer les capitaux qui viennent vers la RDC.
On va écouter Yves qui est à Kinshasa et Lola qui est à Ouattara. Yves, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup.
On vous écoute.
Bon, moi je dis d'abord que ces mesures sont fondées dans la mesure où aujourd'hui la lutte contre le terrorisme international est une cause mondiale. Et vous savez, dans notre pays aujourd'hui, il y a des tueries à l'Est. Et nous sommes en train de parler du terrorisme. Dès lors qu'il a été démontré qu'il y a des entreprises ou des sociétés qui ont investi dans le financement du terrorisme international, moi je pense que ce genre de mesures doivent être prises le plus rapidement possible, comme on l'a fait par le gouvernement. Et sur le plan interne, vous savez que la lutte contre le blanchiment des capitaux. Nous avons d'ailleurs une loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Donc, ce sont des mesures qui sont fondées à partir du moment où nous sommes membres de l'Organisation des Nations Unies, membres de l'Union africaine. Nous faisons partie de la communauté internationale, nous ne pouvons pas évoluer en vase clos. Donc, les mesures sont fondées. Et je pense que maintenant, c'est question de savoir comment est-ce que les biens seront gérés, parce que il y a la possibilité qu'on puisse désigner l'autre administrateur afin d'opérer une certaine traçabilité dans cette gestion-là. Donc c'est très très important. Je pense que nous devons encourager le gouvernement d'aller dans ce sens-là. Parce que si on place déjà d'autres gestionnaires, c'est pour évidemment faire face à des effets pervers sur le plan économique, sur le plan social avec les travailleurs congolais, etc. Je pense que les mesures seront prises de manière à ce que on ne puisse pas porter préjudice à nos à nos compatriotes qui travaillent là-bas et que l'économie du pays ne puisse pas en pâtir. Donc nous devons encore se mesurer. D'ailleurs, j'irai plus loin pour proposer que dans notre pays, nous devons maintenant avoir des magistrats à spécialiser dans en matière de lutte contre le terrorisme, une police spécialisée pour que finalement, si on est en train de se dérouler sur notre territoire, des magistrats, de la police spécialisée puisse avoir l'information nette et mener des enquêtes pour que nous soyons aussi en mesure de détecter nous-mêmes ici dans notre pays ce genre de comportement, parce que ça porte atteinte gravement d'ailleurs non seulement à la sécurité internationale, mais à notre sécurité ici sur le plan interne. Donc voilà, donc moi je pense que ce sont des mesures qui sont fondées et que c'est pour des raisons de sécurité sur le plan tant international que sur le plan interne, sur le plan économique aussi. Il faut que les capitaux qui circulent dans notre pays puissent être connus, les origines, etc. Vous savez, aujourd'hui, il y a, si je prends un exemple, depuis des immeubles qui pillent partout, dans un pays extrêmement pauvre, mais des gens construisent des immeubles qui coûtent énormément, on ne sait pas l'argent vient d'où. Et on a parlé tantôt de déplacement des capitaux, de l'argent qui venait d'exploitation des minerais en tuant les Congolais. Donc, comprenez que nous devons encourager donc le gouvernement dans ce sens, mais seulement je pense que avec la nomination d'autres gestionnaires, on fera face maintenant à des effets pervers pour que finalement, sur le plan économique, il n'y ait pas des effets négatifs et que les compatriotes qui travaillent dans ce genre de société puissent ne pas être préjudiciés. Voilà ce que je voulais dire là-dessus.
Merci beaucoup Yves. Lola, vous êtes à Ouattara. Bonjour Lola.
Bonjour monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Merci beaucoup de m'avoir associé à cet échange autour de ce sujet très important qui, on dit, mieux vaut tard que jamais. Je pense qu'ici nous sommes en droit international. C'est comme les prédécesseurs ont dit, particulièrement Omar. Et même au niveau de la Constitution, vous trouvez des dispositions légales. On a tellement de dispositions légales qui pratiquement couvrent tous les problèmes dont il est question aujourd'hui dans notre échange. Il y a entre autres l'article 34 alinéa 1-3, article 35 alinéa 1-2 et article 36 alinéa 2. Alors, comme nous sommes un état de droit et puis nous sommes membres des Nations Unies, je pense qu'ici, la RDC n'a fait que faire une de ses obligations en tant que membre des Nations Unies. Et pour avoir ratifié certains traités, certains accords, conventions au niveau international, on ne pouvait que coopérer. Parce que les obligations, c'est dans le cadre de coopérer en tant que membre pour des traités où vous êtes signataire. Alors, moi, je pense que pour les cas d'espèce, c'est aussi une interpellation pour nous, la République démocratique du Congo. Ça, c'est par rapport aux conséquences, hein, aux conséquences de cette fermeture. Moi, je souhaite plutôt que ça soit la fermeture, que ça soit l'organisation plutôt de notre administrateur pour gérer ceci, cela. Pourquoi je dis ça? Je prends l'exemple de cette société-là de fabrication de pain. Monsieur le journaliste, la fabrication de pain, est-ce que vraiment pour fabriquer le pain, il faut qu'il y ait un investisseur étranger? Pourquoi à notre niveau, sachant bien que c'est un besoin des Congolais, et que comme on a dit quelque part, c'est consommé un peu par-ci par-là, pourquoi nous ne pouvons pas investir, l'État puisse investir pour qu'on ait ce petit investissement, cette petite industrie de fabrication de pain. Si les privés même congolais à fond, mais pas à fond, je pense que l'histoire nous dit dans l'État, il y en avait. Alors moi, je crois que c'est une interpellation pour que certaines choses, que ça soit des compétences internes au niveau local, national, ou que ça soit au niveau externe, avec toutes les conséquences que est allé. Et ça va aussi permettre à ce que les emplois soient garantis pour des cas d'espèce ici. Nous allons perdre peut-être certains emplois. Et qui dit perte d'emploi,
a d'impact au niveau du développement du pays. Parce qu'il y a des compatriotes qui étaient employés, maintenant ils seront au chômage. Mais si nous arrivons pour des sociétés ou des services de ce genre, autoriser d'abord aux investisseurs nationaux, bien sûr, on ne va pas rejeter les étrangers. Mais les étrangers, c'est pour quel genre d'activité? Il faut qu'on arrive à mettre ça un peu au clair, comme on a fait pour les cas des emplois. Les emplois, il y a des emplois réservés exclusivement aux Congolais. Mais on ne peut pas prendre un soudeur étranger pour venir travailler dans une société ici pendant qu'il y a des compétences congolais. Moi, je pense qu'on doit encourager les investisseurs congolais nationaux, privés nationaux ou publics, mais dans des choix comme fabrication, et comme ça, nous, on n'aura pas de conséquences. De
merci, merci beaucoup, Lola. D'ailleurs, vous avez rejoint notre invité qui parlait tout à l'heure, qui a évoqué la loi sur la sous-traitance, vous l'avez dit, nommer un autre administrateur. Je reviens à vous, Dédé Moupassa, directement. Vous êtes député national élu d'Idiofa dans la province de Kwilu. Cette question de nommer un administrateur, il y a un internaute qui se demande, mais quand on a sanctionné une personne, est-ce que c'est la sanction est individuelle liée à la personne? Parce que ce sont ces avoirs qui font fonctionner l'entreprise, même quand la personne quitte l'entreprise, mais ce sont les avoirs qui ont été ou qui sont gelés. Est-ce que cela ne peut pas avoir des conséquences quand bien même on peut nommer une autre personne pour gérer l'entreprise et écarter celui qui a été sanctionné, alors que les avoirs continuent à être les avoirs de la personne? Oui, Dédé Moupassa, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Oui, oui, je disais tout à l'heure, il y a les internautes, ceux qui soutiennent bien sûr qu'on puisse avoir ces mesures conservatoires de nommer notre administrateur. Mais il y a un internaute qui se pose la question de savoir, mais les avoirs appartiennent à un individu qui a ses sociétés, quand bien même on pourrait l'écarter, mais est-ce que cela va faire que les avoirs puissent être libérés parce que les avoirs sont liés à l'individu sanctionné?
Oui, les avoirs qu'on doit retenir, c'est les avoirs sanctionné, qu'on dit bien qu'on retient ça, on retire ça de selon que le principe le donne. C'est pas que ça va revenir à l'État congolais, non. L'État congolais peut, comme on a déjà fait, garder l'outil pour geler tout ce qui arrive au niveau de l'emploi. Donc, je pense qu'il est très important de mettre ça dans cette catégorie de choses. Parce que je maîtrise pas très très bien quand on a frappé comme ça, quelle est la destination de montants bloqués? Est-ce que le pays, sinon on revient à la zarisation, mais je pense de quelques cas que je connais, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Donc, je maîtrise pas très très bien, je sais pas s'il y a un internaute qui sait comment, après avoir retenu les avoirs, qu'est-ce qu'on fait de ces avoirs-là? Voilà.
Alors, en principe, l'internaute s'est demandé si le fait de nommer un administrateur va avoir de l'impact dès lors que les avoirs sont liés à la personne qui a été sanctionnée.
Oui, maintenant là, c'est parce que il n'est pas la sanction présume aussi leur innocence. Ils ont tous les moyens de défense.
Okay.
On a bloqué, mais on a gel. On dit bien gel. On n'a pas pris leur avoir. On n'a pas bloqué le fonctionnement. Le fonctionnement continue, mais maintenant l'État congolais dit, pour ne pas tomber, les laisser la main libre, ils nomment un administrateur pour faire du suivi. Okay. Et la Banque centrale contrôle maintenant de l'argent, il bloque, il ne peut pas faire de mouvement de retrait ni de versement.
Exact. Ouais,
donc, tout ça est suivi pour avoir la traçabilité de cela.
Et,
alors, mais moi, la question qui reste un peu nuageuse à mon niveau, c'est à la fin, si cela est démontré qui finance le terrorisme, ils font toutes ces choses-là, quels deviennent leurs avoirs? On fait quoi avec l'argent bloqué? On fait quoi au niveau des États-Unis, au niveau de la République? Tout ça, je ne sais pas. Je n'ai pas une très bonne notion là-dessus.
Et d'ailleurs, c'est la grande difficulté. Hein. Il y a eu plusieurs débats, même quand il y a eu ces sanctions contre la Russie, contre les entreprises russes prises par le département d'État américain, beaucoup sont revenus pour dire que c'est difficile parce que en définitive, on finit par pouvoir libérer les avoirs parce que les États-Unis ne pourront pas les bloquer aussi indéfiniment. quand il y a par exemple l'amélioration de la gestion ou l'amélioration de la traçabilité, on finit par pouvoir les libérer, les retourner. Voilà. Aux propriétaires, oui. Il y a eu beaucoup même de débats où on estimait même que les gels des avoirs n'étaient pas assez efficaces dans la lutte contre le terrorisme parce que les mêmes personnes trouvent d'autres mécanismes pour pouvoir dissimuler les fonds dans les paradis fiscaux. C'est les débats qui continuent aussi, même sur les plans internationaux. Héritier, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour à Radio Café, bonjour à l'invité et aussi à tous les auditeurs de la Radio Café.
On vous écoute.
Voilà, je suis en train de commenter ce sujet combien important dans la mesure où le département du trésor américain est en train de donner une sorte de prendre plutôt, je vais dire, une sorte de décision sur les plans d'intérêt lui concernant. Mais la République démocratique du Congo, à travers la banque centrale, ne pouvait pas en tout cas agir à la précipitation, comme je disais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si on ne fait pas attention, on peut envoyer des milliers de Congolais au chômage, dans la mesure où les hommes d'affaires de multinational qui sont chez nous ici, ils investissent dans plusieurs milieux, notamment dans les secteurs que vous êtes en train de commenter, dans le sujet qui fait, n'est-ce pas, le débat. Et si la banque centrale gère les avoirs de ces multinationales, ça risque d'envoyer, n'est-ce pas, comme je venais de le dire, des milliers de Congolais dans le chômage. Le pays tombe dans le chômage. Nous avons déjà des licenciés, des diplômés qui n'ont pas de travail. Avant de prendre une position, le gouvernement congolais devrait peser le pour et le contre. C'est ce que je voulais dire.
Merci beaucoup. Vous avez dit, rappelons quand même que tout reste des mesures conservatoires, hein, parce que vous avez dit pourquoi le gouvernement congolais s'est-il précipité, il fallait mettre du temps, mais vous avez suivi notre invité a pu expliquer, le gouvernement en décidant le gel des avoirs au niveau de la banque centrale a directement proposé une mesure transitoire pour éviter que cela ne puisse peser sur l'économie de la RDC, y compris sur cette question d'emploi évoquée par les uns et les autre Pierre Damien. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Roger. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute.
Oui, beaucoup de gens ont parlé des emplois des Congolais, mais moi, je voulais aborder un autre aspect. Les enquêtes qui sont en cours peuvent être mises en corrélation avec les déclarations accablantes que nous avons suivies par rapport aux gens qui sont arrêtés à l'Est. Parce que quand il est associé dans les financements des actions terroristes, il doit avoir toujours des corrélations. Mais dans notre pays, le comble, c'est que la décision qui a été prise, peut-être c'est pour plaire à la population, pour nous dire que non, la justice fonctionne, alors que les dessous des cartes sont autrement. Les histoires de blanchiment d'argent, la banque commerciale a été acquise plusieurs fois pour le blanchiment d'argent. Est-ce que ces messieurs-là n'en est pas seulement un élément d'une grande machine? Si aujourd'hui les États-Unis d'Amérique dévoilent cette histoire, est-ce que les États-Unis n'étaient pas au courant que ces messieurs le faisaient avant? Ou bien ils ont attendu seulement l'avènement du président de Tshisekedi pour démontrer ça? Donc pour moi, je comprends que déjà c'est une grande machine et cette situation a été prise en contact avec les FARDC dans les enquêtes qui sont en cours pour dénoncer les coupables. Parce que dans notre pays, les terroristes, nous avons beaucoup de familles qui sont, des enfants qui sont restés orphelins et des gens qui finance ces histoires. On ne peut pas commencer à conduire quelqu'un qui finance, qui a l'argent qui est obtenu d'une manière illicite, et on ne peut pas commencer à brandir, non, c'est le plan économique, c'est un monsieur qui a investi, il a beaucoup de noms. Ça, c'est sont des gens qui viennent avec une autre face, alors que la face B est autrement. Par rapport aux gens qui sont morts, s'il est vraiment coupable dans ce qui se passe à l'Est, je pense que la justice soit faite, qu'il n'y ait pas les histoires des poids des mesures.
Mais rappelons Pierre Damien que c'est
qui sont à l'appui de
oui Pierre Damien le gel des avoirs, les sanctions décidées par les départements des trésors américains n'est pas lié à l'Est, il y est plutôt à un autre groupe terroriste libanais, les Hezbollah, qui n'est pas ici. Mais rappelons quand même que deux semaines avant, le département d'État avait aussi sanctionné le responsable d'ADEF qui sont concernés par la question des tueries en RDC. D'ailleurs, vous l'avez suivi parmi les personnes qui ont été interpellées et présentées au public. Il y a des sujets ougandais, des sujets kenyans, tanzaniens, rwandais, burundais qui opèrent, n'est-ce pas, sur le sol congolais. Mais vous aussi, vous estimez qu'il y a beaucoup de ramifications sur la question de finances internationales. Est-ce que cela peut avoir aussi de l'impact sur ce qui se passe sur le sol congolais? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des enquêtes très très sérieuses, je crois, qui peuvent déterminer la responsabilité des uns et des autres. Mais pour le moment, nous restons dans ce qui a été décidé par rapport au lien présumé, bien sûr, avec le Hezbollah. Je crois qu'on va écouter le tout dernier auditeur avant de revenir à notre invité pour conclure, Pacheli, qui nous appelle de Bounia, dans la province d'Ituri. Pacheli, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Radio Okapi, bonne année.
Merci, on vous écoute.
Oui, nous ici à partir de l'Ituri, nous comprenons cette situation autrement.
Pacheli, il fallait carrément arrêter votre poste récepteur, s'il vous plaît, parce que ça va être difficile de pouvoir communiquer comme il faut.
Ok, bon, nous comprenons ça autrement parce que ici, le gouvernement Bamanita, par exemple, a sanctionné la société Showa qui avait tous les documents. Bon, aujourd'hui, voyons aussi cette sanction, peut-être c'est suite au problème terroriste, comme vous venez de dire, là, on ne comprend pas. Mais nous comprenons ça comme ça. Est-ce que les gouvernements ne comprennent, ou bien les acteurs gouvernementaux ne comprennent pas avec la justice juste pour traquer de l'argent à des sociétés, comme ça se passe au cas de l'Ituri?
Et d'ailleurs, c'est le souci de tout le monde, parce qu'en début d'émission, on l'a dit, notre invité a insisté pour dire, mais qui ne sait si aussi les services congolais ont pu travailler pour pouvoir participer à cette enquête, voilà. Et cela veut dire qu'à un certain moment, il faut faire confiance aux institutions de la RDC qui soient capables de mener des enquêtes, exactement, de pouvoir dénicher les origines douteuses de certains capitaux qui travaillent sur les sols congolais. On revient à vous, Dédé Moupassa. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes député national élu du Diofa dans les Kwilu. Vous avez suivi les uns et les autres. L'échange a été assez intéressant. C'est une matière que beaucoup de gens voudraient aussi comprendre en profondeur. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive dans cette émission?
Oui, merci beaucoup d'abord de mettre cette thématique, parce que c'est pas des thèmes de tous les jours. Ça relève des finances internationales. Les gens parlent du terrorisme, les gens parlent de blanchissement. Tu vois même qu'en République démocratique du Congo, pour nous aligner, on avait déjà voté la loi il y a 10-15 ans passés. Mm-hmm. Maintenant, le preuve, disons, l'activation de cette loi n'est pas connue du grand public. Et il faut vraiment qu'on s'organise pour voir de cette échelle. Notre pays, c'est un pays qui a le regard du monde entier, au travers des besoins de tout ce que nous possédons, que ce soit l'eau, que ce soit l'air, que ce soit la forêt, que ce soit le minerai, que ce soit la terre, que ce soit... Il y a un regard international. Donc, ce genre de paramètres doit être mis et vu de tout le monde, dans le monde entier, parce que nous devons rayonner positivement sur des critères qui fait d'un État un pays et qui soit aisé à investir, qui soit prêt à porter des investissements pour que les capitaux arrivent. Et quand les capitaux arrivent, ça va transformer ce pays et ça va permettre que la jeunesse puisse travailler, ça va remontrer notre économie au travers des finances publiques et ça va nous permettre de créer les riches Congolais. Mmh. Donc, moi je pense que c'est un bon thème et je conseille seulement à l'entreprise, parce qu'il ne faut pas condamner d'emblée s'il y a des enjeux politiques au niveau international, parce que c'est possible aussi, qui se livre à l'État congolais. L'État congolais, par ses structures,
peut merci beaucoup
à expliquer ou à présenter les choses autrement. Mais quant aux travailleurs qui restent sereins, je pense que l'État congolais, les syndicats, le ministère de Travail et l'Emploi doit prendre déjà la prise en charge pour voir comment ne pas perdre ces emplois-là et surtout... le pain qui va disparaître, ce serait pas une bonne chose. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Nous profitons de cette occasion au nom de toute l'équipe et Parole aux auditeurs pour vous présenter, vous, à notre invité, nos vœux des joyeuses fêtes de Noël à vous et à l'ensemble des auditeurs de Radio Okapi. Merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps.
Merci à vous-même et bonne année à vous et à tout le monde.
Merci.
Merci.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à Jean-Claude Sala qui était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. On se retrouve le jeudi à 11h pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Mais cette émission est sur www.radiocapi.net. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Il nous reste à vous souhaiter une bonne fête de Noël et surtout paix et prospérité dans vos foyers. Le programme s'est poursuivre sur les antennes de Radio Okapi. Merci et au revoir.